RJB Info.
Le journal, Olivier Zano, bonsoir.
Bonsoir. La psychiatrie régionale est prête à débarquer à Moutier. Le bâtiment du Home Lauréat accueillera ses activités dans une année suite à d'importants travaux qui visent une large refonte du site prévotois, un site appelé à se transformer en un véritable hôpital intégré. Mobilisation à Berne pour les stations hivernales de Suisse. On ne laissera pas la Confédération édicter de nouvelles mesures restrictives. Les représentants politiques des régions concernées ont lancé leur cri de révolte. Vous l'entendrez tout à l'heure. Les Jeux Olympiques auront lieu à Tokyo l'an prochain et on s'interroge déjà sur le contexte sanitaire. Un catalogue de mesures a été établi. Loïc Georgi vous le résumera dans notre page sport. La nuit s'annonce encore passablement nuageuse, mais sèche et froide. Demain, de nombreux bancs de nuages bas nous accompagneront jusqu'en fin de matinée. Ils se dissiperont en milieu de journée avant de revenir à la charge au fil de l'après-midi. Les températures seront comprises entre 0 et 3 degrés au mieux. C'était annoncé depuis longtemps, la phase concrète est désormais lancée. L'hôpital de Moutier entame sa mue et deviendra dans une année un hôpital qui intègre soins somatiques et psychiatriques. D'importants travaux seront menés sur le site avec la construction de deux annexes, l'une accolée au bâtiment principal, l'autre érigée sur le toit du Home Lauréat. Cela a été expliqué ce matin en conférence de presse. Le Home qui accueillera d'ailleurs le pôle santé mentale et la structure n'aura rien d'un asile de fous. Le directeur de l'hôpital du Jura bernois, Dominique Sartori.
Malheureusement, le cinéma, depuis des décennies, a passablement abîmé l'image de ces problèmes psychiatriques. Je crois qu'on n'est pas du tout dans un monde de violence, comme on pourrait le penser, voire de démence avancée. Bien sûr qu'il y a des cas difficiles, des cas lourds, mais l'essentiel de cette patientèle, il ne faut pas l'oublier, ce sont des gens comme vous et moi, qui à un moment de leur vie voient quelque part une cassure, une brisure, et ils se retrouvent dans ce circuit de santé mentale. Et heureusement qu'on est là pour eux.
Quand on parle restructuration, réorganisation, la tendance est de penser qu'on va amputer l'hôpital de certaines prestations. Ce n'est pas le cas.
Non, alors j'aimerais vraiment répondre ou dire à la population, alors surtout qu'il ne faut pas avoir de crainte à ce niveau-là. Notre travail, c'est vraiment maintenir des prestations. Alors certes, on ne veut pas se développer à outrance et chercher de l'activité à tout prix. On est là dans une médecine hospitalière de base, on veut jouer notre rôle, c'est le rôle d'un hôpital d'une région qui nous incombe, mais on veut vraiment rassurer la population. Il y aura des soins dans cet hôpital aujourd'hui, demain et j'espère pour longtemps.
Et le projet est de viser à plus de 14 millions de francs. Il a l'ambition de maintenir les emplois et prestations actuelles, voire même de les développer. Le groupe de travail a aussi voulu impliquer la municipalité de Moutier et les riverains avec la constitution d'un atelier participatif. On s'attendait d'ailleurs à des craintes du voisinage avec l'arrivée de la psychiatrie. Pour l'heure, il n'en est rien, bien au contraire. Et le directeur pôle santé mentale, s'en réjouit, Patrick Gay.
Je crois que c'était génial d'entendre le témoignage des voisins, finalement, dans leur petite maison, dont on aurait pu imaginer que c'était des gens claquemurés derrière leurs privilèges et puis qui ne veulent pas se partager, et qui, tout à coup, étaient très généreux de leurs idées, de leurs pensées, même de leurs propositions pour dire comment est-ce qu'on peut rétablir du lien là autour. Et je crois que plus il y a de vie et de liens autour des patients psychiques, et plus ils sont apaisés, finalement. Ils ne sont plus dans l'exception. On le voit chaque fois qu'on crée un centre positif, ça réhabilite le patient. On l'a vu pour certains centres, par exemple à Fribourg, où on a mis le centre pour les addictions et les toxicomanes dans un magnifique ancien monastère restauré avec des images ouvertes. Déjà rien que le centre qu'on mettait à leur disposition renvoyait une image très positive de ce qu'ils étaient. Ça contribuait aux bienfaits thérapeutiques déjà environnementaux.
Et les premières réorganisations à l'interne ont été lancées, tout comme les demandes pour les permis de construire. La fin des travaux et le déplacement des patients et résidents devraient intervenir en décembre 2021. Le Grand Conseil bernois avance sur la modification de la loi sur l'école obligatoire. Les députés ont accepté aujourd'hui cette révision en première lecture. Après une journée presque entière de débat, on se dirige seulement vers des changements mineurs du texte, même si la droite en aurait préféré autrement. Célia Berthollet.
Il s'agit essentiellement de rafraîchir cette loi, car le texte initial date de 1992. Et s'il ne faut pas s'attendre à une révolution bernoise, ce n'est pas faute d'avoir essayé, notamment pour l'UDC. Les agrariens ont par exemple demandé le retour des examens pour passer en secondaire, proposition largement balayée. Ils ont aussi souhaité que les bulletins d'école enfantine soient délivrés seulement au bout de la deuxième année, au lieu des 6 mois actuels. Là aussi, un revers, la majorité des députés ont préféré le suivi régulier. particulier. L'UDC a dirigé une nouvelle salve contre l'école à journée continue. Le groupe a proposé de faire passer de 10 à 15 le nombre de demandes nécessaires pour ouvrir une telle structure. La majorité de l'Assemblée a craint de voir l'offre des EJC devenir moins attractive. Elle a donc rejeté cet amendement. Les agrariens ont tout de même réussi à faire passer une de leurs idées. À partir de 120 000 francs de revenus nets, ce sont les parents qui devront payer l'école à journée continue.
Et on notera que le PS a tenu à souligner qu'il n'était pas au complet hier en raison de cas de Covid-19 et de quarantaine. Le bureau du Grand Conseil lui a assuré que lors d'un résultat serré, il serait possible de revoter sur un article lors de la deuxième lecture. Le chevreuil peut depuis une quinzaine de jours gambader tranquillement dans les bois et les prairies du canton de Berne. Les chasseurs ont rangé leurs fusils. Bernard Grossenbacher est le représentant des chasseurs du Jura bernois auprès de Diana Roman, de la fêtière des disciples de Saint-Hubert. Il est également le président de la Société des chasseurs du district de Lanneville. Et selon lui, la saison 2020 a été dans la tendance de ces dernières années.
Moi, j'ai pas eu d'écho négatif. Simplement, on pourrait signifier le fait que On a constaté moins de chevreuils dans le Jura bernois. Est-ce que c'est dû à la présence du lynx? Mais personnellement, j'ai beaucoup chassé dans le Seeland, alors qu'avant, on chassait essentiellement dans le Jura bernois. Là, on peut que constater qu'effectivement, je ne veux pas dire que sur le Jura bernois, il n'y a plus de chevreuils, mais il y en a plus dans le Seeland. Quoique le lynx, maintenant, commence de progresser dans ces petites forêts du Seeland, après discussion avec un ou deux garçons qui m'ont confirmé le fait.
Si le chevreuil ne peut plus faire office de proie pour les chasseurs, il n'en va pas de même pour le sanglier. Celui-ci doit rester méfiant jusqu'à fin janvier. Quant au lièvre, un moratoire reconductible tous les 5 ans le protège depuis 1991. Et voici Pro Junior Arc Jurassien. L'ancienne antenne régionale de Pro Juventute a changé de nom tout en conservant ses missions de soutien aux familles. La décision de la fondation Pro Juventus Suisse de se concentrer sur des projets nationaux a forcé les différentes associations locales à prendre leur indépendance. Après cette rupture, 10 d'entre elles ont constitué une nouvelle fêtière, l'aide suisse à la jeunesse et à la famille. Yannick Boyot, secrétaire général de Pro Junior Arc Jurassien.
On a choisi de continuer à échanger les bonnes pratiques d'une région à l'autre et à se fédérer en une association fêtière démocratique où chaque membre a sa voix, etc. Et ça s'appelle l'aide suisse à la jeunesse et aux familles et ça a été créé il y a 2-3 mois. C'est, disons, une fédération participative où chaque association peut donner ses impulsions, où il y a une écoute, où ça se fait en deux langues. Donc, c'est aussi une autre façon de travailler que sur le plan régional. Mais c'est aussi intéressant de pouvoir construire aussi à l'avenir des projets sur l'ensemble du territoire en Suisse.
Et Pro Juventute Arc Jurassien lance par ailleurs une campagne d'information afin de recruter des donateurs. Toutes les informations et l'interview complète de Yannick Boyot sont sur notre site rjb.ch. Les représentants politiques des stations suisses de sport d'hiver se mobilisent. Pas question de laisser le Conseil fédéral édicter de nouvelles mesures restrictives. Le tourisme hivernal et le concept de protection contre le virus, ce sont désormais l'affaire des cantons. Leur question est la suivante, pourquoi limiterait-on le nombre de personnes dans une télécabine alors qu'on ne le fait pas dans un bus ou un tram? Cet après-midi à Berne, 10 parlementaires alémaniques de droite, des Grisons au Haut-Valais ou de Suisse centrale à Saint-Gall ont lancé un cri de révolte. Écoutez le conseiller national UDC valaisan Franz Ruppen.
Ce n'est pas une révolte, mais il faut faire pression maintenant sur le Conseil fédéral parce qu'on sait qu'il y aura très probablement des restrictions pour les domaines skiables. On est prêt, on ne veut pas une politique de laisser-faire. Hein. On veut des concepts de sécurité qui sont vraiment stricts, mais on veut faire du tourisme parce que si on ne peut pas faire cette saison d'hiver maintenant, ça provoquera de grandes pertes financières pour les stations d'hiver, mais pour toutes les régions de montagne.
Ce qu'on craint surtout, ce sont les espaces où on attend, où on fait la queue, c'est aussi l'après-ski, c'est les soirées. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai danger là?
La queue, les gens qui attendent, là, ça doit aussi faire partie des concepts et qu'il y a du personnel qui regarde, qu'il n'y a pas les gens qui sont trop proches. Et l'après-ski, ça c'est clair, il n'y a pas d'après-ski. Pas de bar, chacun doit être assis, on peut manger, on peut boire. À 23h, c'est fini, il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de nightclub, il n'y a pas Aligali. Là, je pense qu'on est tous d'accord.
Et ne faut-il pas se montrer particulièrement prudent quand on sait que le Valais a été ces dernières semaines l'une des régions d'Europe les plus contaminées par le coronavirus? Peut-on faire confiance aux autorités de ce canton? Le conseiller national PDC au Valaisan, Philippe Mathias Brégy.
Le Valais, c'est un exemple extraordinaire. Dans la dernière semaine, le Conseil d'État a pris des mesures. Maintenant, on a voir c'est les résultats. C'est mieux qu'en la fin d'octobre et pendant le mois de novembre. Et c'est clair qu'en travaillant sur cette passe-là, on a vraiment une chance de faire une session touristique avec des systèmes de protection, ça c'est clair, mais avec la possibilité de skier et de prendre un dîner au restaurant.
Et la saison hivernale dans les stations suisses sera évoquée au Parlement ce jeudi. Il est probable que ce soit aussi un sujet abordé par le Conseil fédéral vendredi. Aux États-Unis, cette nouvelle déclaration détonnante de Donald Trump, l'actuel président américain, évoque désormais ouvertement la possibilité d'être à nouveau candidat à la présidence en 2024. Près d'un mois après l'élection du 3 novembre et sa défaite face au démocrate Joe Biden, un revers que Donald Trump refuse toujours de reconnaître d'ailleurs. Dans l'histoire américaine, un seul homme a réussi un retour en grâce. Il s'appelle Grover Cleveland, élu en 1884, battu 4 ans plus tard, puis élu à nouveau en 1892.
Et à l'écoute d'heure JB, il est 18h12.
Sport. Des règles strictes attendent les athlètes des Jeux Olympiques de Tokyo. Les responsables de l'organisation ont publié un rapport cet après-midi après plusieurs mois de discussions. Les 54 pages ont pour but de pouvoir organiser les JO entre le 28 juillet et le 8 août dans tous les cas. Loïc Georgi, vous faites le tour de ces différentes mesures.
Les athlètes seront soumis à des tests réguliers. Le premier dès leur arrivée au Japon et ceux résidant au village olympique devront quant à eux se soumettre à des tests réguliers avec un intervalle envisagé entre 96 et 120 heures. Un centre de contrôle des infections sera mis en place pour traiter les cas positifs. Les sportifs devront également signer un code de conduite les invitant à ne pas parler fort, à éviter les contacts physiques avec d'autres et à porter des masques quand ils ne pratiquent pas leur discipline. Les spectateurs devront également respecter un certain nombre de mesures. Tout d'abord, ils seront dispensés de quarantaine en arrivant et l'utilisation des transports publics sera autorisée. Mais ils auront des règles strictes allant du port du masque à l'interdiction de crier, en passant par la conservation des talons de billets pour faciliter le traçage.
La décision sur le nombre de spectateurs sera prise ce printemps. Une cascade d'annulations en Chine. Les restrictions imposées par l'Empire du Milieu concernant la pandémie devraient pousser la Fédération internationale de ski à retirer ses épreuves chinoises. La Coupe du Monde Dames ne fera pas halte à Yangqing, où une descente et un super-G étaient prévus. Les mondiaux de freestyle de février, situés dans la même station, pourraient également tirer leur révérence. Les épreuves pré-olympiques de saut à ski, de ski de fond et de combiné nordique de février et de mars à Pékin sont également menacées. Et une annulation a également été annoncée en snowboard. Il s'agit de la manche de Coupe du Monde de snowboard cross prévue dans les Pyrénées à Saint-Lary du 29 au 31 janvier. Une décision motivée évidemment par les incertitudes liées à la pandémie. Du côté du ski nordique, la Suède et la Finlande emboîtent le pas à la Norvège. Ils n'aligneront aucun représentant sur les deux prochaines étapes de Coupe du Monde de fond en raison des risques liés au Covid-19. Ils font donc l'impasse sur les courses de Davos et de Dresde. Servette réalise un bon coup sur le marché des transferts. Le club grenat de Super League de football s'est offert les services de Gaël Clichy. L'ancien international français a signé un contrat de 18 mois. Le défenseur de 35 ans était libre depuis la fin de son contrat avec Başakşehir Istanbul. Ce sont les informations communiquées cet après-midi par le club genevois. Dominique Egerter, lui, se lance un nouveau défi pour la saison prochaine. Alors qu'il est déjà engagé en moto E, le Bernois de 30 ans découvrira également le championnat de supersport. Il pilotera une Yamaha YZF R6 au sein de l'écurie néerlandaise Tenkate. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, la météo vous est présentée par Yves dans quelques secondes. L'actualité, elle, revient à 18h30. Très belle soirée.
Très belle soirée à vous également, Olivier Zano. On prend des nouvelles du ciel, comme annoncé, avant de retourner dans les années 80 aux côtés de Laura Branigan. Et si on prenait l'air à 18h20, comme chaque soir de la semaine d'ailleurs.
La météo avec Perles de lait de Yoplait, encore plus doux et crémeux qu'un yogourt. Perles de lait de Yoplait, un vrai moment de plaisir.
Et dans votre menu météo pour ce soir et cette nuit, nous serons sous les nuages, mais nous resterons au sec. Attention tout de même au froid mordant. Demain, nous nous réveillerons sous la grisaille qui devrait nous accompagner durant toute la matinée. dès le début d'après-midi, le soleil devrait venir guigner un petit peu avant de céder à nouveau sa place aux nuages pour la fin de journée. Des gouttes ou des flocons seront tout à fait possibles à ce moment-là. Côté température, la fraîcheur reste de mise d'après Météo News. Il fera entre moins 1 et 1 degré à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre au mieux 2 degrés dans les vallons du Jura bernois, 3 degrés à Moutier, maximum 4 degrés dans le Seeland. Vendredi de son côté sera marqué par de fréquentes chutes de neige. Il est possible que ces dernières atteignent la plaine.
La météo avec Perles de lait de Yoplait, encore plus doux et crémeux qu'un yaourt. Perles de lait de Yoplait, un vrai moment de plaisir.